Salut les joueurs et salut les joueuses, nous sommes le 27 novembre 2014 et Jérémy est en train de décéder.
Non, toujours pas, encore une semaine où je suis là. Et un merci particulier au Patreon et notamment à Geeklette, à Christophe Bonnefoy, à Cyril Morin, à Merlin Duménil, à Guillaume Aubert, à un Toulousain, à Benjamin, à Johan Bonneau, à Arnaud Van Meusewinkel.
Bravo!
À Fendoël, à Clément Dumas, à Michael Le Bruis.
On doit des bières à Arnaud pour avoir écorché son nom si nombreuses fois. Vous écoutez la troisième partie du 61e épisode de Proxy Jeux. Je suis Olivier.
Je suis Jérémy.
Et nous sommes avec Régis Torres.
Bonjour.
Tu es revenu la troisième fois, bravo, merci
oui,
à toi.
Je suis de retour.
Tu es de retour.
Tu tiens à chaque fois.
Et aujourd'hui, alors, merci encore à la boutique Philibert de nous aider à réaliser ce podcast sur philibert.net.com. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Do It Yourself et de jeux de rôle.
Et on commence par le jeu de rôle, Olivier.
Tu veux commencer par le jeu de rôle? Il prend le contre-pied. Le jeu de rôle avec Siol qui nous parle de Shadowrun. Et ça, c'est bien. Est-ce que tu as joué à Shadowrun? Est-ce que Régis, tu joues au jeu de rôle?
Oui, bah, beaucoup.
À quoi?
J'ai maîtrisé Donjons et Dragons 3.5.
Ah, 3.5. Tu vas pouvoir nous faire...
enfin, Donjons et Dragons 5.
Voilà, tu vas pouvoir nous parler de Donjons et Dragons 4 et 5. Vas-y, je t'écoute.
Ah non, 4 et 5, j'y ai pas joué.
Non, mais t'as ton avis quand même dessus.
Oui, en fait, j'ai arrêté à 4.
D'accord. Pourquoi? Parce que c'était la 4 ou parce que...
Parce que du coup, là, j'ai fini mes campagnes qui a duré 4 ans à Donjons et Dragons. Et donc je vais jouer c'est parce que maintenant c'est plus un système qu'un jeu en soi. Enfin, il n'y a plus d'univers propre au jeu. Et donc sur le contexte de campagne des Terres Balafrées, c'était chez Hexagonal à l'époque. Et donc du coup avec la 4 en fait, j'ai ressenti ce que les joueurs de Advanced de Dungeons and Dragons 2, enfin fou. Ressenti à la sortie de la de DD3, enfin Donjons & Dragons 3 pour les intimes, et c'est qu'en fait tu te retrouves avec des personnages qui ne sont pas des profils de personnages qui sont super balèzes, un jeu qui est encore plus orienté baston, on perd le roleplay. Moi c'est l'effet que ça m'a fait, hein. Après j'ai pas joué et j'ai pas eu dans mon entourage de personnes qui jouaient. Mais donc ça m'a pas mal réfréné parce que c'est ce qui me manquait dans la version 3.5. C'est cet aspect roleplay en fait qui du coup n'avait plus l'impression d'avoir de maîtriser un jeu qui était
trop technique,
mécanique.
Trop mécanique en fait et trop lourd au niveau des règles. J'ai fait ma sauce perso pour rendre les parties plus fluides parce que on se retrouvait avec un jet de dés à faire tout dès le moment où tu bouges le petit doigt.
Je suis un peu à l'opposé. Je me dis que les dés sont très importants. Il en faut. Il faut jeter les dés, mais il faut que ça soit.
Mais la plupart du temps, t'as pas besoin, en fait.
Ça reposait sur le bon sens, en fait. Pour ça, donc, du coup, j'ai essayé d'autres jeux. Donc, il y a Innomine Satanis Magna Veritas.
Qui va ressortir chez Rise Dead.
Ouais, c'était sur le site Rise Dead, mais ouais.
Parce que là, toujours pas de news de ça.
Bah, je sais pas, en même temps, n'importe où on départ.
Ils font du teasing. Non, mais sinon je le saurais. Ils font du teasing et puis, puis on attend.
C'est ce que du coup, c'est toujours Croc qui est derrière.
Toujours. Et ils ont repris en fait les grands anciens pour le remettre au goût du jour.
Ouh, oui,
et Croc est la manœuvre. Oui.
Oh, ça promet.
Mais on se demande si ça va être justement si ça va conserver le goût de la madeleine qu'on connaît, nous.
Oui.
Donc,
après, moi j'ai joué à l'une des premières versions du jeu. Donc après j'ai eu quelques parties qui correspondaient à Fire and Ice, leur campagne je crois que c'est la 3ème et 4ème édition, pas dire de bêtises, je m'y connais pas assez.
Je saurais pas te dire.
Et ça, j'ai joué aussi à Mage et Vampire, donc pareil, 3ème édition, c'était avant l'apocalypse. donc Buffy The Vampire Slayer. Où j'avais trouvé le jeu de rôle à l'époque en tant que fan de la série, et puis en fait je me suis aperçu que en plus d'être un jeu sur une série que je connais très bien, il y a un très bon système de règles derrière, ultra fluide, qui repose sur du bon sens. Donc c'était une super bonne surprise, et finalement je me suis aperçu que je pouvais faire jouer des gens qui ne connaissaient pas Buffy ou qui n'aimaient pas Buffy et qui se prenaient au jeu, et Donc du coup voilà, je suis une petite campagne super sympa.
Et dans ce cas-là, t'incarnes les héros de la série ou alors c'est
Maintenant en fait tu crées ton perso. En fait tu n'as pas de profil de perso pour en parler. Tu as une idée générale. Ouais. Et après tu crées ton perso en fonction de ce que tu veux lui faire faire, du profil que tu veux lui donner.
Une lycéenne.
Donc en gros tu t'es pas obligé de jouer aux États-Unis, t'es pas obligé de jouer à Sunnydale comme dans la série. Tu peux jouer en France, à Lyon, et jouer un bibliothécaire lyonnais ou un antiquaire ou ce que
je
tu veux.
Je connais
en fait.
Un bibliothécaire lyonnais. Ça s'appelle Maël. Maël, si tu nous écoutes pas.
Est-ce qu'il chasse les vampires?
Mais je ne sais pas. D'accord, donc t'as pas. Mais il n'y a pas de tueuse de vampires?
Si, il y en a, mais après, t'es pas obligé d'en faire jouer en fait. C'est en gros pour
toi. Tu peux dans un univers de vampires, etc.
Voilà,
sans tuer les vampires.
En fait, t'es dans l'univers de Buffy.
Qui c'est qui tue les vampires là?
Mais tout le monde peut faire.
Non,
bah c'est Buffy.
Si,
c'est Buffy.
Elle vient à Lyon. Tu l'appelles, elle vient.
Voilà. En fait, tu as donc Buffy. Bah, en gros, pour résumer, plus ou moins. Vite
non, je suis trop. Je suis pas assez flexible, je crois, pour jouer à ce truc-là. Mais vas-y.
Bah, après, voilà. En gros, dans l'univers Buffy, tu as donc Buffy qui est une tueuse, qui est en fait une championne. Du bien entre guillemets, mais il y en a qu'une à chaque génération.
Sauf à la fin où ça part en couille, on a
voilà.
Pas.
Ça c'est à la fin de la série.
Oh merde,
j'ai spoilé.
Bon, en même temps,
bon ça va, je pense que c'est passé.
Elle est finie depuis 10 ans.
C'est moins important que Game of Thrones.
Et Game of Thrones, on a le cinquième. Non, ça il faut pas.
Voilà. Et donc du coup là, donc c'est la règle, il y en a qu'une seule. Donc en gros, tu peux pas refaire Buffy à part si tu rejoues les persos de la série. Ce qui
bah
est
oui, mais ça c'est.
Mais t'es pas obligé. Après, tu peux. T'as en gros 3 profils de persos dans
le
jeu.
Le bibliothécaire, la lycéenne.
Non, tu peux créer ce que tu veux.
Non, le directeur.
Et l'idiot.
Non.
L'improviseur.
En fait, voilà, tu as le héros. Donc en gros, c'est le casting de la série, plus ou moins, qui peut faire de la magie, ou alors qui est un chasseur de vampires. Tu as l'héros expérimenté, Buffy à la fin de la série, par exemple, ou tous les personnages à la fin de la série. Et tu as ce qu'ils appellent le White Hat, en gros le chapeau blanc. C'est le mec lambda qui se retrouve face à des vampires, ou à des monstres, et qui n'a que les moyens du bord pour s'en sortir.
Le perso le plus intéressant à jouer, finalement, quand t'as un peu de background jeu de rôle.
Et ça, c'est super intéressant parce que t'as des jets de peur à réaliser. Donc finalement, on a un jeu où tu peux soit jouer du super-héros à la Marvel, ou alors jouer du Cthulhu. Et réunir les deux dans la même partie. Et c'est là où ça devient sympa, en fait. Donc c'est... Après, voilà, il y a un système de points de points de drama. Pour le côté télévisuel.
Le côté role-playing.
Voilà. C'est ça. En fait, tu peux justement éviter à ton personnage de mourir, en fait, en dépensant certains points. S'il meurt, tu peux le faire revenir. T'es bloqué dans un truc, tu peux dépenser un point pour te faire relancer, en fait, dessus.
En fait, tu as des points quand tu joues bien quand tu joues bien ta scène ou quand t'as des idées.
Quand tu dis, je vais chercher du bois, je reviens. Si tu le dis bien avec la bonne intonation, tu gagnes des points de drame.
Après, sur un côté des films d'horreur, tu reviens pas en fait.
C'est ça. C'est que t'as pas gagné assez de drama.
Et tu joues encore au jeu de rôle?
Oui, toujours.
Est-ce que tu connais la nouvelle vague du jeu de rôle? Parce que j'en parle beaucoup. C'est moi la nouvelle vague que j'aime beaucoup.
La nouvelle vague. Le François Truffaut du jeu de rôle.
Vincent Baker.
Les 400 coups de dés.
Non. C'est Vincent Baker avec Dexing the Vineyard. C'est Apocalypse World. Quelque chose où tu laisses beaucoup plus la part à la narration et le partage de responsabilités aux joueurs. Et t'as moins un truc structuré avec un MJ tout puissant.
Alors, on a parlé justement. Après, j'ai pas l'occasion d'essayer. Du coup, je suis assez curieux. C'est qu'après, je suis plutôt de la vieille école en fait, où il y a un meneur de jeu derrière son écran. Voilà. Mais on a parlé justement d'un jeu où il n'y a plus vraiment de MJ, mais où en fait, où chacun devient narrateur.
C'est ça. Narration partagée à tour de rôle ou.
Ça, je suis assez curieux parce que on a parlé, mais je veux voir ce que ça donne en situation quoi.
Et donc entre le jeu de rôle et le jeu de CD, puisque là on parle déjà, enfin quand on parle des jeux narrativistes, on parle déjà d'un type de jeu de rôle qui est particulier. Pour la partie jeu de société, il y a aussi des jeux qui sont particuliers, qui font appel au côté narrativiste, narrateur du joueur. Et j'ai eu la chance de faire une chronique pour Ludovox, qui m'a envoyé la boîte de Wintertale. Et quand ils connaissaient mes penchants pour le jeu de rôle narratif et le Et le jeu de société narratif, parce qu'en fait il y a là, c'est un moment où en fait ça se rejoint. Et puis je voulais vous présenter Winter Tales. Je l'ai fait. Il y a un article sur Ludovox qui en parle. Je vais vous en dire deux mots. Je veux pas prendre plus de 5 minutes pour vous le présenter, mais je pense que cette partie-là, la partie jeu de rôle, était la meilleure pour parler de ce jeu qui est à la croisée des chemins. L'idée, c'est que on va te faire parler, on va te faire raconter des histoires. Mais d'abord, le jeu va offrir un background. C'est l'hiver qui se bat contre le printemps, le mal contre le bien, les méchants contre les gentils, encore que. Tu as vu la boîte, tu as vu les personnages, et en fait, c'est un monde qui est. Oui.
Ils ont tous un petit côté. Un petit peu barré. Un petit peu barré, oui.
Oui.
Alors après, voilà. Le loup a l'air finalement le plus sain de l'Utah, quoi.
Le loup, il est. Et c'est, je crois que le loup, c'est mon personnage préféré. Il a un gros ventre parce qu'il a encore toutes les pierres que la maman chevreau lui a mis dedans et a recousu. C'est vrai, c'est un patchwork en fait de fables avec Alice au Pays des Merveilles, avec le magicien d'Oz, avec les sept chevreaux. Dans un univers complètement fantasmagorique où il s'est passé des choses et où en fin de compte le loup a été reconditionné en fait et Alice elle a une camisole
un jeu familial quoi.
C'est un jeu familial, ouais, tout à fait.
Après il y a un côté Tim Burton en fait dans l'approche.
Absolument. Et une illustration qui est formidable. Et l'idée, alors est-ce que tu as vu les cartes,
oui,
les petites cartes,
oui.
Tu as vu les grosses cartes et les petites
cartes?
Ah
non, cartes. Les petites cartes, moi je ne les ai pas regardées. T'es attiré par les grands.
Je vais te les montrer. L'idée, c'est que donc il y a le mal contre le bien, l'hiver contre le printemps, etc. Où en fait c'est l'armée contre les rebelles, l'armée de l'hiver contre les rebelles du printemps. Donc dans la boîte, on a un plateau de jeu parce que on va pouvoir avoir des sites, l'usine de cauchemar, l'asile du chapelier toqué, le manoir de Dorothy, parce que Dorothy, en fait, il y a un background pour chaque personnage. Elle a sauvé des enfants et elle les a récupérés, elle les a hébergés dans son manoir.
Dorothy, rappelle-moi, c'est le magicien d'Oz.
C'est le magicien d'Oz, ouais. Mais c'est la vieille Dorothy. Elle a 80 ans dans le.
Oui,
dans
d'accord. Le... Donc oui.
C'est ça qui c'est ce qui est bizarre aussi, tu vois.
En plus, les droits, il est magnifique, plutôt.
Absolument. Et l'idée, c'est qu'on va générer des quêtes, qui peuvent être des quêtes pour l'un ou l'autre des côtés. Mmh. Alors, les quêtes, ça peut être, par exemple, une lueur d'espoir, ça c'est pour le printemps, et le but de l'histoire qu'on va raconter, c'est faire une découverte qui redonne l'espoir du retour du printemps, un lieu, un objet, une créature. Il y a des quêtes également pour l'hiver. Ça peut être représailles armées, exercer des représailles contre les rebelles et saboter leurs plans pour leur infliger autant de dommages que possible et affaiblir leur défense. Tout ça, c'est fait pour se raconter des histoires. La guerre entre le printemps et l'hiver. L'idée, c'est que l'hiver est en place, donc c'est plutôt les soldats, et le printemps veut arriver, et donc c'est les rebelles. L'idée, c'est que donc on va jouer une quête, on va dire on veut lancer une quête, et on va dire comment ça va se passer. Et on va utiliser des cartes. Les cartes sont des petites cartes, tu les as vues. Qu'est-ce que tu en penses?
Ben, la première chose qui surprend, c'est que, à l'inverse des personnages ou du plateau, les dessins sont super sommaires. C'est-à-dire qu'en fait, tu demandes...
si je te dis que c'est des enfants qui les ont faites. 6 ans et 9 ans.
Je te crois.
C'est des griffonnés. Alors, certains plus figuratifs que d'autres, là il y a une sorte de flèche avec je sais pas quoi. Et en fin de compte, ça permet de c'est un peu des tests de Rorschach. Tu y vois ce que tu veux.
Oui,
tu peux y voir un arbre, tu peux y voir une personne, tu peux y voir une flèche, tu peux y voir ce que tu veux. Et c'est ça qui invite aussi à l'histoire. C'est-à-dire que c'est un support, tu vas avoir des cartes en main, la quête va te dire où est-ce que tu dois aller. Et après, les cartes vont dire comment y aller. Et c'est à toi de décider. Et chacun, ça va être une bataille en fait. Chaque joueur va pouvoir participer. On joue pas tout seul. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se déplacer sur le plateau et aller à l'endroit de la quête pour participer à l'histoire.
Oui, côté coopératif.
Oui, tout à fait. Quand je dis c'est par équipe, c'est que t'as un des problèmes qui est, je sais pas raconter des histoires, qui est un petit peu modéré parce que les autres sont là. Et tu vas jouer des cartes et tu vas dire, ben voilà, il se passe ça, et ça se passe comme ça, et avec cette ces personnes-là, et voilà comment on va faire pour arriver à la fin de la quête. Ça va être complètement ouvert, ça, tu ne dois pas éliminer les personnages. C'est un peu aussi une difficulté, c'est qu'il faut, faut vraiment raconter une histoire, et les règles sont pesantes parce qu'elles disent, attention, il faut que ça soit toujours... Il faut laisser la possibilité à l'histoire d'évoluer, ce qui n'est pas facile. Et puis, bah, tu vas avoir trois petites histoires comme ça, et après un dénouement. Et donc, pendant la partie, les personnages vont se déplacer de site en site. Les sites ont aussi un background, donc il faut connaître le background, il faut l'avoir lu peut-être à ses joueurs. Tout comme les personnages ont un background, et les backgrounds sont liés les uns aux autres. Par exemple, j'ai parlé de, il y a un asile, je crois. Ouais, c'est l'asile du chapelier toqué où a été interné
Alice, du coup, qui a une camisole.
Qui a une camisole. Et donc tout se tient. Et donc t'as cet environnement dans lequel tu vas faire évoluer des personnages et tout est fait pour que tu racontes des histoires. La problématique, c'est qu'il y a trop de règles. C'est-à-dire, on va te raconter des, on va te dire, voilà, pour, tu vas devoir lancer une quête. Après, donc le personnage, le joueur principal va lancer une quête où il veut, donc là où il est. Tous les autres personnages vont pouvoir le rejoindre. À ce moment-là, le camp opposé peut l'arrêter et il y a une bataille. Toujours la narration, je me promène dans les bois, ah oui mais je suis le loup et j'ai tendu un piège et je vais te faire tomber dans mon piège et je vais t'emprisonner et tu vas finir tes jours dans les geôles de l'hiver. Mais ça rajoute un petit peu plus de... ça rallonge la partie et puis ça rajoute aussi de la complexité. Tu vas arriver sur place, chacun va venir sur place, opposant ou allié. Mmh. Et puis on va raconter et on va faire évoluer l'histoire... mais avec tous les antagonismes qu'il peut y avoir dans une histoire. Mais ça se traduit par l'utilisation des cartes, et celui qui a utilisé le plus de cartes a gagné la manche. On fait trois manches, et après, c'est un bonus pour l'histoire finale, qui se termine aussi par celui qui a utilisé plus de cartes gagne la partie. Enfin, grosso modo, on a un bonus pour si on a raconté des belles histoires avant, mais c'est ça. Donc, pour résumer, superbe graphisme, super background, des personnages qui sont incroyables, et un problème avec l'immersion parce que c'est compliqué d'avoir en tête les règles, de pouvoir les appliquer, et d'arriver à raconter une histoire, et d'être assez libéré pour raconter une histoire. Donc je suis assez mitigé, et ce que je disais dans l'article de Ludovac, c'est qu'il y a au moins deux autres jeux qui ont cette notion de narration où tu te racontes des histoires, c'est Zombie Cinéma. Tu disais que tu n'aimais pas forcément les jeux zombies, moi non plus. Par contre, on a tous en tête les films de zombies qui sont très classiques et qui sont assez divertissants. Et ben, Zombie Cinéma te propose de rejouer, de mettre en scène un film de zombies. Et là, t'as pas toute cette partie règle. C'est vraiment tu joues, la table va inventer des scènes. De films, et c'est quand tu auras une opposition entre des joueurs que est-ce qu'on reste où on est, est-ce qu'on va prendre la voiture, on se barre, et là il va y avoir un petit antagonisme et ça va faire évoluer le jeu.
D'accord.
Mais pas plus. Donc il y a ça que moi j'ai plus aimé parce que plus court et moins pesant au niveau des règles. Et puis il y a Fargo aussi que j'ai acheté, que j'ai pas eu encore l'occasion de jouer. J'aimerais vraiment bien pouvoir y jouer.
Fargo comme le film des Farquaad.
Fargo comme le film et Fargo comme la série.
La série, oui.
Et la série est incroyable. On en est nous à la moitié à peu près et c'est juste incroyable. Et j'aimerais retrouver, tu vois, cette jouissance de voir s'enfoncer mes personnages petit à petit dans une situation qui est complètement épique. Et je pense que c'est vraiment des choses à découvrir en fait. Donc ça c'est mon prochain ma prochaine découverte, ça va être Fargo. Donc Winter Tales, c'est chez Edge, bientôt Asmodée, 14 ans et plus, 3 à 7 joueurs. Jouez-y en nombre pair parce qu'il y a aussi un truc, ils ont dit vous pouvez jouer à 3 ou 5, mais en fait ou 7, c'est un des personnages va avoir des joueurs va avoir des personnages de l'un et de l'autre camp. il est ni avec l'un ni avec l'autre. Tu vois, il veut faire l'équilibre. Donc ça, c'est un peu. Tu sens que c'est un peu forcé et que voilà. Et puis ça dure 90 minutes. Ça dure bien 90 minutes. Et je vous conseille Zombie Cinéma. Ça se trouve difficilement, mais chez l'éditeur, c'est l'auto-édition. Ça se vend dans une petite un boîtier de cassettes vidéo.
Ouais. Cherchez sur le site Proxy Jeux.
Et puis tu le Leven, quelque chose comme ça. Et de toute façon,
il avait mis le lien en Emilia quand on avait parlé dans un article.
Bah c'est sur le site de Ludvox, puis je le remettrai dans la note. Il faudrait que j'y pense. Mais quand j'écouterai ça, je me réécouterai, j'y penserai.
Mais si on t'en avait parlé, Zombie Cinéma.
Absolument. Mais ce que je veux dire, c'est Winter Tales, c'est il y a plein de bonnes choses. Mais moi, il y a des choses qui m'ont un peu gêné. On y a joué avec Eve et elle a vraiment envie de jouer, d'y rejouer, moi aussi, avec les mêmes personnes pour qu'on puisse déjà avoir les règles en tête, tout ça. Mais voilà, le Zombie Cinéma est beaucoup plus facile d'approche et a priori Fargo aussi.
Très bien. On enchaîne. En fait, est-ce absolument. Que t'as lancé la chronique de Siol? Je ne suis même pas sûr. Parce qu'on est parti tout de suite sur le jeu de rôle et je crois qu'on a tout de suite demandé à Régis s'il jouait au jeu. Et en fait, ça avait commencé par nous demander si on jouait à Shadowrun, et on a basculé dans une autre dimension.
Donc c'est maintenant qu'on écoute. Alors moi j'ai fait des belles parties de Shadowrun. C'était
Shadowrun deuxième édition ou un truc comme ça.
Je sais pas.
Fin des années 90.
On a joué à la même alors.
Ouais, les mêmes versions. On a pris le même âge.
C'est le plan de la magie, le plan cyber, enfin de la Matrix.
C'était intéressant, oui, non, parce que du coup chaque joueur quand un joueur faisait ça, les autres vas-y, tu vois, tu peux aller faire autre chose.
Surtout ceux qui étaient dans la Matrix, c'était compliqué, quoi.
Ouais, voilà.
Tu fais un run, vas-y, on t'attend. Enfin nous, on va aller boire une bière et puis toi, vas-y.
Il fallait que tous les joueurs soient la même classe du perso et puis.
C'est parce que alors maintenant sur Shadowrun, il y a une déclinaison de fou qui est en train de se préparer, j'ai l'impression.
Mais justement, elle est en route là, elle est sortie d'ailleurs, puisque Siol nous en parle.
Absolument.
On met la chronique. Là, tu seras obligé d'écouter après coup.
Oui.
Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Dans l'épisode 58, durant la partie sur la Gen Con, Olivier et Jérémy ont parlé de Shadowrun Crossfire. C'est vers 25 minutes 40. Ils ont évoqué le fait que ce jeu se base sur l'univers de Shadowrun, le jeu de rôle. Du coup, parlons-en. Shadowrun fait partie pour moi des grands anciens du jeu de rôle. La première édition est sortie en 1989 en VO et en 1990 en VF. En 2013 sort en VO la cinquième édition, 2014 pour la VF. Le jeu est actuellement édité chez Black Book Edition. Avant de parler de l'univers, je vais rapidement passer sur la création de personnages et sur le système de résolution. En effet, je garde le meilleur pour la fin. Globalement, la création de personnages tourne autour d'attributs, 4 physiques et 4 mentaux, auxquels s'ajoutent la chance, la magie et la technomancie, j'y reviendrai dans l'univers, associés à des compétences. À cela vont s'ajouter un système d'avantages défauts qui caractériseront encore plus le personnage. La résolution des actions se fait par un lancer de D6, une pelletée de D6. On lancera autant de dés que la somme de l'attribut et de la compétence concernée. Les 5 et les 6 compteront comme des succès. Il faudra réussir à faire suffisamment de succès pour dépasser la difficulté posée par le maître du jeu. Attardons-nous maintenant sur l'univers. C'est la grande richesse de ce jeu, c'est ce qui le rend unique et particulier. L'univers de Shadowrun est un futur proche, uchronique, cyberpunk. Uchronique car la trame richement décrite commence et dévie forcément dans les années 1990. Souvenez-vous que la première édition du jeu a justement été publiée en 1989. Économie, politique, loi, catastrophe, tout y passe. Dans sa première édition, la trame était ainsi décrite jusqu'en 2050. Les éditions ultérieures ont fait avancer cette trame historique. Les années 2070 pour la quatrième édition et 2075 pour la cinquième. Quelques mots maintenant sur le cyberpunk. Globalement, l'idée, c'est une déliquescence de la société, avec notamment la perte de souveraineté des États, une prise de contrôle des méga-corporations, des multinationales avec souveraineté territoriale et forces armées, sur la vie publique, d'un côté, et une évolution technologique très marquée, avec des prothèses cybernétiques améliorant l'humain, et aussi la matrice, un Internet +++, de l'autre côté. On y retrouve les notions de transhumanisme notamment. La particularité de Shadowrun par rapport à un autre univers de cyberpunk est l'éveil. Vous avez bien entendu la majuscule. En plus des catastrophes plus ou moins naturelles, en général plutôt plus que moins d'ailleurs, des centrales nucléaires qui sautent et autres raz-de-marée pollués, la magie est revenue dans notre monde. Du coup, on assiste à un réveil des dragons et d'autres créatures légendaires, mais surtout au fait qu'une bonne part de la population n'est désormais plus humaine, mais elfes, nains, orques ou encore trolls. La quatrième édition vit en plus l'apparition de technomanciens, des personnes capables d'influencer l'électronique et la matrice sans avoir d'interface particulière. Évidemment, cette apparition de la magie et toutes ses conséquences que je vous ai décrites amènent des complications supplémentaires à tout ce que le cyberpunk pose comme problématique déjà de base. Peur, racisme marqué et compagnie. Oui, c'est un univers assez noir. Et les joueurs là-dedans ? Le jeu propose d'incarner des shadowrunners, des marginaux en dehors de la société, des mercenaires auxquels les méga-corporations font appel, via un Mr. Johnson, pour faire leur sale boulot. Du genre voler les planchers concurrents, quand ce n'est pas kidnapper, pardon, extraire le scientifique d'en face ou carrément faire exploser le labo histoire de gagner les quelques heures nécessaires pour faire la mise sur le marché en premier. Pas très glamour non plus, hein. Mais bon, il faut bien remplir la gamelle. Et aussi survivre, en espérant que le Johnson n'a pas prévu de faire disparaître les Shadowrunners au passage. Il y a plusieurs types de Shadowrunners et chacun amènera ses compétences pour les missions. Quand le Face se sera occupé de la négociation, le Decker, ou Hacker, s'occupera de la partie matricielle de la run. Le Samouraï des rues sera le gros bras cybernétisé, le Magicien s'occupera des oppositions éveillées, tandis que le Rigger déploiera ses drones autour de la zone. Mais, comme je le disais, l'univers est richement décrit, et on peut vraiment y jouer toutes sortes de choses et d'aventures, sans forcément avoir à se cantonner à des runs, voire même à des runners. J'ai pour ma part mené une campagne où les PJ étaient des HTR de Dogvegan, une équipe médicale surarmée amenée à intervenir pour sauver les clients dans des zones très dangereuses. Le tout alors que Dogvegan et Horizon, un grand groupe média, avaient un accord concernant un programme de reality show. Devinez qui étaient les vedettes. Alors, entre ceux qui sont dans l'équipe pour faire leur taf, ceux qui sont pour les feux de la rampe et les gangsters qui veulent passer à la TV, l'émission était mouvementée. Shadowrun, outre le jeu de rôle, et maintenant le jeu de cartes Crossfire qu'Olivier et Jérémy ont présenté, c'est aussi des romans, je vous conseille particulièrement Loup Solitaire, un jeu vidéo, Shadowrun Return sur PC et tablette, un MMORPG à venir, Shadowrun Online. Pour les anglophones, sur shadowrun.com, vous trouverez toutes les informations sur tous les produits qui utilisent cet univers. En français, je vous conseille d'aller sur shadowrun.fr qui propose un wiki sur l'univers. Enfin, sur le site de l'éditeur français Black Book Edition, vous pouvez trouver un guide rapide d'initiation avec les règles de base de la 4e édition, un scénario avec ses prétirés. Sur ce, allez au mai, jouez bien!
Et donc voilà, Shadowrun, moi j'ai passé vraiment des très très bonnes... pour raconter ma vie... À toi, puisque maintenant les gens qui écoutent Proxy G de la connaître, j'ai fait du Shadowrun et j'ai masterisé du Shadowrun.
Ah oui, donc tu connais très bien là.
Pardon ?
Tu connais très bien
Shadowrun ? Non, parce que ça fait très longtemps et j'ai un peu oublié. Mais c'est un monde qui me plaisait énormément justement par sa richesse. C'était un moment où tu vois, tu voulais faire la. Enfin, c'est un peu bidon comme monde parce que tu veux faire de la magie, tu fais de la magie. Tu veux faire un gros bill, tu fais un gros bill avec des gros flingues. Tu veux faire un decker, tu fais un decker. Et puis en plus, bah tiens, on va mettre des nains et des trolls. Tu vois, c'est le monde. Il y a un fluff qui fait que bah, ça marche et que bah, en plus.
Ce que moi j'en avais retenu de Shadowrun, c'est que c'était le parfait compromis entre Donjons et Dragons et Cyberpunk.
C'est possible.
C'est ça, c'est ce que dit Olivier. Moi, c'est ce qui m'a fait surtout basculer à Cyberpunk après. Mais...
Et puis c'est intéressant maintenant parce que rejouons à Shadowrun maintenant. Maintenant qu'il y a des corpos, des vrais corpos, des entreprises qui détiennent plus d'argent que certains pays, ça met en perspective pas mal de choses. Quoi. C'est pas mal. Bon, Donc ça, c'était la partie jeu de rôle.
Voilà.
Ça fait une fin
qui a déjà bien explosé le temps.
Non, mais c'est bon, ça fait une heure. Avec 35, ça fait.
Oui, c'est bon. Et puis donc on passe à la partie do it yourself.
Ouais.
Avec une chronique un petit peu atypique, puisque cette fois-ci, dans cet épisode, on a perdu Alexis.
Non, Alexis a prêté son gros marteau à Yannibus.
Voilà, Yannibus, qui fait du coup toujours un duo quand même avec Gila. Ils vont parler des Tugbox, qui est une manière de personnaliser tes boîtes pour ranger ton matériel de jeu.
Ouais, c'est les Tugbox, c'est pour mettre les cartes notamment.
Tugbox.
Bah, c'est pour qu'on croie mieux, quoi.
Ah ouais.
Les Tugbox.
Les Tugbox. Donc voilà, pour ranger ton matériel, très bien. C'est vrai qu'il y a des jeux qui mériteraient ça, mais...
Et bien les Tugbox, en fait, t'en as dans Descente. Ils en ont mis deux bases, c'est-à-dire que chaque aventurier a une petite boîte en carton où il met son stuff.
Mais ça, c'était dans Descente 1.
Ouais. Bah attends, moi je te parle.
C'est ouais, même, ouais.
Faut toujours. Ça devait faire un an et demi que je dis. Oh, il faut que j'achète quand même le kit de V2.
Il existe plus, je pense, le kit
de conversion.
De conversion, ouais. Parce que ça fait au moins deux ans que le jeu est sorti. Bref.
Tu veux dire que mon jeu qui m'a coûté 100 millions de dollars, il vaut plus rien?
Bah si, il vaut ce que tu joueras avec la règle de la V1, c'est pas un problème. Et donc voilà, ils vont parler des Tugbox et puis ils vont nous parler également d'un jeu, c'est Shadows Upon Lassadar.
Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Alors aujourd'hui, chronique un petit peu spéciale, puisqu'on a un invité de marque, mais vous le connaissez déjà, c'est Yannibus. Bonsoir Yannibus.
Bonsoir, salut les joueurs, salut les joueuses, et salut à toi, Guilain.
Donc, Alexis n'est pas là ce soir, on va se faire notre petite... plan habituel, une petite partie news, une petite partie technique, et peut-être une présentation de jeu si on a du temps. Donc le planning ne change pas tellement, mais vous avez une voix peut-être plus douce et moins barbue que celle d'Alexis.
Il m'a prêté son gros marteau.
Il t'a quand même prêté son marteau, ça compense la douce voix. Bon alors la petite partie news du jour va être assez rapide, mais il y a un gros morceau pour ceux qui avaient suivi un petit peu les premiers épisodes de Do It Yourself. Je vous avais parlé à l'époque d'un blog sur Board Game Geek qui s'appelle le Print and Play News blog. Et le gars qui s'en occupe, qui s'appelle Chris Hansen, pendant assez longtemps, il avait un peu laissé tomber. Il avait été rattrapé par la vie, comme il dit. Et c'était bien dommage parce que c'était vraiment le blog qui référençait tout ce qui sortait en Print and Play, y compris dans les Kickstarter. Y référencer les nouvelles traductions, les mises à jour des jeux, etc. Donc c'était un gros gros boulot, et ça permettait vraiment de rien rater. Bon, il avait arrêté, et là il vient d'annoncer qu'il allait reprendre. Alors il va modifier un petit peu sa formule, c'est-à-dire qu'il va essayer de moins se concentrer sur les petites modifications des jeux. Par exemple, s'il y a eu une petite correction de règles ou un truc comme ça, il n'en parlera pas. Par contre, il va vraiment parler de toutes les sorties. Évidemment, sous réserve que lui-même, il en a entendu parler. Et puis, il va essayer de laisser un petit peu moins de place aux jeux payants et un petit peu plus de place aux jeux gratuits, parce qu'il dit qu'il a un peu l'impression de leur faire de la pub et de dépenser son temps pour leur faire de la pub à des jeux payants, et que bah, et lui, il n'y gagne rien, évidemment, dessus. Donc, il est en train de réfléchir à ce qu'il va faire une partie sponsorisée ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va consacrer le maximum de son énergie à tout ce qui est gratuit. Et il va passer un petit peu moins de temps aussi à voir les petites modifications, les nouvelles traductions, les choses comme ça. Donc je vous conseille évidemment de suivre ce blog. En gros, il fait un article par semaine. Alors on va voir s'il reprend le même rythme que ce qu'il faisait à l'époque. Et vraiment, vraiment, il y a beaucoup de matière. Donc bah, finalement, il fait mon boulot. C'est très bien. Je piocherai là-dedans de temps en temps quelques trucs intéressants à vous raconter, mais si vous voulez suivre de plus près, allez voir. Deuxième news, même si pour vous c'est peut-être un peu tard, je vous en avais déjà parlé aussi je crois l'an dernier, en ce moment se déroulent sur Board Game Geek les événements qu'ils appellent Secret Santa, donc le Père Noël secret. Alors il y en a plein différents, et en particulier deux qui nous intéressent sur le Print and Play. Donc en gros il y a le... vous faites un jeu de taille entre guillemets normale, donc vous allez l'envoyer à quelqu'un et vous recevrez un jeu d'une autre personne. Le principe c'est vraiment un échange, vous savez pas à l'avance qui va vous envoyer le cadeau. Et puis il y a la version mini, où là l'idée c'est vraiment de faire le truc le plus simple possible, le plus light possible. Bon, le but c'est que les gens osent se lancer, quoi. Alors celui-là, c'est fort probable que vous puissiez encore vous inscrire quand vous aurez l'épisode. Par contre, le premier, je crois que les inscriptions sont déjà closes.
Voilà pour la partie news
du jour. Ouais, alors l'an dernier j'avais fait le mini, j'avais fait un Coinage et un Empire Engine, voilà. Donc c'était vraiment du light. Et cette année je vais participer au gros, enfin au gros, entre guillemets. En gros, la référence qu'ils ont, c'est tu imprimes au moins 10 pages de papier. Donc après, évidemment, si c'est pour faire des cartes, c'est assez simple. Si c'est pour faire des plateaux de jeu ou des tuiles, c'est plus compliqué.
D'accord.
Mais bon, ça donne une idée. Bah voilà, le but c'est que tout le monde ait à peu près l'impression de recevoir la même chose, quoi.
Et tu sais déjà à qui tu dois envoyer quelque chose? T'as déjà isolé?
Alors,
le
j'ai
jeu
ouais, j'ai déjà ma cible, c'est un allemand.
D'accord.
Déjà ça c'est bien parce qu'en frais de port ça sera pas trop,
ouais, ouais.
Et en fait quand tu t'inscris tu peux te dire vers quel pays tu es d'accord pour envoyer ton
d'accord.
colis. Ça permet de pas avoir de mauvaises surprises.
D'accord.
Et a priori, je pense que je vais lui faire un Tower. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé de ce jeu-là. C'est un jeu qui était sorti en Kickstarter aussi. Un jeu de... Tu vas acheter des ressources, mais elles sont en nombre limité. Donc en gros, si tu les achètes, ben, ça veut dire que tes adversaires peuvent pas les acheter. Et il te faut certaines ressources pour construire un morceau de tour. C'est pour ça que ça s'appelle Tower. Et bon, le premier joueur qui a réussi à construire 3 morceaux de tour a gagné. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que pour acheter des ressources, en fait, tu dois piocher des gemmes dans un sac. Et selon les couleurs des gemmes que tu sors, ben, elles sont plus ou moins de bonne qualité. Donc, tu vas pouvoir acheter telle ou telle ressource.
D'accord.
Bon, c'est un petit jeu sympa. Mais en termes de matos, c'est assez joli parce que, donc, justement, il y a les gemmes. Il y a ces petits morceaux de tour, là. Je ne sais pas encore comment je vais les faire, mais je pense que je vais faire des trucs en bois un peu sympas. Et puis, il y a plein de petites... plateaux, enfin c'est pas des plateaux individuels mais des petites tuiles en carton qui servent pour aller se positionner pour acheter les ressources. Bon, ça fait un petit matos un peu sympa, quoi. Voilà, voilà. Donc bon, pour la partie news c'est tout pour ce soir. Donc je vais vous présenter la Lexalogie Shadows Upon Lassadar. Donc c'est une série de jeux de Todd Sanders. Alors Todd, vous nous en entendez souvent parler. C'est un graphiste à la base, auteur de jeux et en particulier de jeux solo, qui aime bien faire des jeux durs, je vais dire ça comme ça, mais bon, en général, un jeu solo, s'il n'est pas dur, il est pas forcément intéressant. Alors, je vais vous lire d'abord, et puis je mettrai peut-être une petite musique de fond, on verra. Je vais vous lire la présentation, le pitch du jeu, alors que j'ai traduit comme j'ai pu de l'anglais. C'est pas une super traduction, mais ça va vous donner l'ambiance. Le pays est corrompu. Le silencieux roi gris, sur son trône dans la tour de cendre, jette une ombre maléfique sur Lassadar. Tous les jours, nous sentons sur nous sa présence. Ses serviteurs se multiplient et envahissent les ruelles et endroits sombres de nos villes. Les grimoires du Conseil des Anciens, transmis à travers les âges, annoncent l'ère des barrières brisées. Les augures nous disent que l'hiver venu, le roi gris percera le peu de défense que nous avons, rejoindra Lassadar, et que nos terres tomberont dans le désespoir. Nous, les derniers gardiens, qui nous souvenons de l'emprisonnement du roi gris, nous luttons pour tenir son pouvoir éloigné, mais nous avons peu de temps et trop peu de disciples. Vous êtes jeunes, mais la force de notre enseignement est en vous. Vous avez été formés aux arcanes de la magie, de glace, de chêne et de silex, et nous vous avons enseigné le danger que représentent ces pouvoirs capricieux. Nous aimerions pouvoir vous former davantage, mais le temps nous est compté. Vous devez parcourir le monde avec notre bénédiction et chercher un moyen de vaincre le roi gris. Trouvez les clés volées par ses serviteurs et verrouillez à nouveau les portes pour le bannir au-delà des plaines pour toujours. Nos agents répartis dans les derniers lieux préservés de Lassadar vous aideront dans votre quête du mieux qu'ils peuvent. Allez maintenant, notre survie est entre vos mains. Voilà, alors il faut écouter ça avec la musique de... Iron Kid, non, comment il s'appelle ? Wood Kid. C'est l'inspiration du jeu à la base. Donc, on rentre un petit peu plus dans le détail. Donc, Shadows Upon Lassadar, c'est une série de 6 jeux, pour l'instant, pour un ou deux joueurs. Sur les 6, il y a 2 jeux qui sont jouables à 2 joueurs. C'est des petits jeux courts, hein, entre 15 et 30 minutes selon les jeux, plutôt à partir de 10 ans. Ils ont commencé à être publiés en 2011. Je crois que le premier, il a gagné le concours du design solo sur Board Game Geek en 2011. Et donc depuis, Todd il continue à rajouter des jeux sur son Nexalogy aujourd'hui. Cette année, il avait annoncé qu'il se lançait dans la dernière trilogie, donc pour en faire une nonalogie, tu crois que c'est comme ça qu'on dit quand il y en a 9.
Je pense que je sais ça pas. Doit être ça.
Et mais bon, finalement, il a été déconcentré, on va dire, par d'autres idées qui ont fusé dans son cerveau, donc il a fait quand même plein d'autres jeux, mais pas ça. Mais bref, il y aura 9 jeux à la fin. Donc à chaque fois, il y a cet univers, vous avez compris, un petit peu sombre, un petit peu... C'est une espèce de fantasy... un peu peut-être à la Game of Thrones, mais plus dark. C'est vraiment si vous avez le clip Iron de Woodkid dans la tête, si vous l'avez pas, vous allez le voir et vous aurez tout de suite l'ambiance du jeu, quoi. Donc c'est toujours cette même ambiance, ce même thème, avec un design graphique qui fait très ancien, et c'est volontaire évidemment. Pour l'anecdote, toutes les cartes, les images qu'il y a sur les cartes, c'est des gravures de villes françaises, mais des vieilles gravures comme on en voit dans les vieux livres. Et donc il s'est vraiment inspiré de ça, quoi. Donc Shadows Upon Lassadar, le premier jeu de la série, raconte donc, vous avez entendu le pitch, comment ce jeune apprenti va parcourir le monde. Il va aller de ville en ville en affrontant des monstres, et il va essayer de retrouver les 3 clés qui permettront d'enfermer le roi gris. Alors la mécanisme est assez simple, ça ressemble un petit peu à Vendredi si vous y avez joué, c'est-à-dire que vous allez piocher des cartes dans un deck de cartes, c'est pas des événements, là, c'est des lieux, et à chaque lieu, il va y avoir un petit texte qui va vous expliquer ce que vous devez faire, mais en gros, à chaque fois, vous devez vaincre un monstre. Et alors, la mécanique de combat de base, c'est que vous allez lancer un certain nombre de dés, plus vous allez monter en niveau, plus vous allez lancer de dés, mais le monstre, il lance toujours un dé de plus que vous. Donc au début, c'est super dur, c'est-à-dire vous lancez 2 dés, et le monstre, il en lance 3, et vous devez le battre. Donc c'est chaud. Évidemment, plus vous avez de dés, et plus cet écart diminue. Mais pour contrebalancer ça, vous avez un certain nombre de sorts qui vont vous aider. Par exemple, plus un point d'attaque contre les zombies, plus un dé, voilà, ce genre de choses. Tiens, je dis zombie, c'est assez rigolo... D'ailleurs, dans le texte qu'il utilise dans ses cartes, par exemple, zombie, il écrivait avec un U au lieu du O. Il utilise le mot imp aussi, qu'on a l'habitude de voir avec un I, I-M-P, et lui, il écrit Y-M-P. Et, voilà, il a détourné même ça. C'est pas vraiment des zombies, tu vois, c'est des zombies. Tu vois,
c'est vraiment un nouvel univers, quoi.
Ouais. Donc, voilà, on avance comme ça au fur et à mesure dans les villes. Au fur et à mesure qu'on arrive à battre le monstre qu'il y a sur la ville, la carte est retirée du jeu, donc le deck diminue. Par contre, si on n'arrive pas à le battre, la carte est remise dessous et il faudra la réaffronter plus tard.
D'accord.
Dans le deck, il y a aussi un certain nombre de cartes qui sont là pour nous aider. Donc il y a des lieux qui sont un peu des havres de paix. Il y a le lieu où tu vas régénérer ta mana, des choses comme ça. Et il y a trois anciens que pour le coup, quand tu vas les piocher, en fait, tu vas les garder devant toi et ils ont un pouvoir que tu vas pouvoir utiliser plusieurs fois dans le jeu et après la carte est défaussée. Donc là, eux, ils aident bien. Et ensuite, il y a trois cartes spéciales qui sont des villes, en fait, de l'univers. Donc, il y a 3 villes. En fait, quand tu arrives dans cette ville, bah, tu vas faire un petit combat sur une map. Donc, la map, en fait, elle est constituée de 3 cartes à jouer, mises côte à côte. Et donc, ça te fait une espèce de petite map hexagonale, là, comme dans les wargames. Uh-huh. Et tu places ton pion dessus, tu places les monstres de cette ville. Et le but, bah, c'est tout simplement de tuer les 2-3 monstres qu'il y a sur la ville. Et quand tu arrives à les tuer... tu gagnes une clé. Donc du coup, quand tu as fait ces fameuses 3 villes spéciales, on va dire ça comme ça, tu as battu le jeu. Alors après, il y a une micro-extension qui est inclue dans le jeu, qui fait que même quand tu l'as battu, tu peux essayer d'aller chasser le roi gris. Mais bon, globalement, la mécanique, elle est là.
Et il y a combien...
Donc c'est un jeu qui...
Excuse-moi, il y a combien de cartes, en fait, dans le jeu? C'est un jeu qui est composé de combien... Le deck, il fait combien de cartes, en fait?
Je sais pas, je dirais une cinquantaine,
à vue de nez.
Peut-être un peu moins, mais c'est de cet ordre-là, ouais.
D'accord.
Dans le lot, il y a, je crois qu'il y a, donc il y a les 3 anciens qui t'aident, il y a les 3 villes spéciales, et il doit y avoir 4 villes qui sont gentilles, entre guillemets, mm-hmm. Et ouais, donc c'est ça, il doit rester une trentaine de villes à battre. Quoi. D'accord. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Mais t'es pas obligé de les battre toutes. Tu vois, c'est comme dans Vendredi, ouais, si ouais, t'en ouais. restes à la fin, ouais. C'est pas grave, du moment que t'as battu les trois villes principales. Quoi. Voilà, donc ce qui est assez sympa aussi, toujours pareil au niveau de cet univers un peu sombre, c'est que quand tu utilises des sorts, donc tu perds de la mana, éventuellement tu perds de l'esprit. Donc ça, c'est un peu à la mode de Cthulhu, c'est-à-dire que plus tu vas utiliser la magie et plus tu es corrompu, quoi, on va dire ça comme ça. Et si ton esprit tombe à zéro, bah, t'as perdu tout simplement, quoi. Et il y a une gestion un petit peu de ça, parce que tu vas parfois pouvoir perdre un peu d'esprit pour regagner de la mana, ou perdre de la mana pour regagner de l'esprit. Tu vas devoir gérer les deux variables, quoi. Voilà pour Shadows Upon Lassadar. Donc c'est un jeu qui est assez difficile, hein, parce que cette histoire-là de devoir battre à chaque fois un des deux plus, c'est assez tendu. Mais au bout de quelques parties, on arrive à comprendre comment utiliser les sorts pour y arriver. Et voilà, donc pour le premier item de la série. Puis je vous présenterai peut-être pas tous les autres parce que ça ferait beaucoup, mais peut-être je vous en présenterai un deuxième.
Et les mécaniques et puis... sont différentes entre les différents.
Ouais, à chaque d'accord. fois les mécaniques sont différentes, c'est-à-dire qu'en gros, il y a celui-là qui est vraiment ce système-là de battre avec un des deux moins, c'est vraiment ça la mécanique de base. Ensuite, il y a deux wargames, c'est les deux que tu peux jouer à deux en fait. Et quand tu joues tout seul, il y a une espèce d'intelligence artificielle qui te dit comment déplacer les armées adverses. Il y a un jeu, celui que je préfère, en fait tu défends une tour, donc la tour elle est matérialisée avec des petits cubes qui dessinent une tour,
ouais.
T'as des monstres qui arrivent en face et ils sont en formation, donc t'imagines par exemple c'est un carré de 3x3 par exemple.
Oui monstres. D'accord.
Et toi t'as des unités aussi de ton côté, des catapultes, des archers, etc. Et bon ben, par exemple la catapulte, elle va tirer sur un motif de 2x3. Les archers, ils vont tirer sur une ligne, par exemple. Et donc, tu vas devoir aller chercher les bonnes unités pour combattre les ennemis que tu as en face. Et tu as un certain nombre de points d'action à dépenser par tour. Et ben, aller chercher une unité, ça te coûte des points d'action, forcément.
D'accord.
Et après, bon, tu as des unités qui peuvent être abîmées que tu peux réparer. Par exemple, les catapultes, si elles sont abîmées, tu peux les réparer. Et parmi les ennemis, il y en a qui vont attaquer plutôt tes unités et d'autres qui vont attaquer plutôt ton mur. Et donc ça aussi tu vas devoir gérer.
D'accord. Okay. Ah oui, c'est complètement différent. Et... c'est le même univers.
Ouais, ça n'a rien à voir, quoi. C'est ça. C'est le même univers, mais c'est vraiment pas du tout le même mécanique, quoi. Il y en a un, c'est presque un livre dont vous êtes le héros. En fait, t'as plusieurs decks de cartes et il y a une espèce de système d'icônes en bas qui te dit, ben voilà, quand t'as joué cette carte, si t'as réussi à vaincre l'événement, tu peux piocher une bleue ou une jaune, c'est toi qui choisis. Si t'as pas réussi à le vaincre, ben tu pioches une grise.
D'accord.
Et tu résous et t'avances comme ça dans l'aventure, tu vois, ça n'a vraiment rien à voir en termes de mécanique.
Ah,
quoi.
Ah bah ça a l'air sympa en tout cas. Après, c'est, d'après ce que tu dis, c'est quand même des choses qu'il faut. Enfin, pour le faire toi-même, justement, c'est du matos relativement conséquent, ou alors on peut.
Oh bah non, regarde. Le premier Shadows Upon Lassadar, c'est que des cartes.
D'accord.
Il te faut des dés et c'est que des cartes. Alors bon, moi, les petits plateaux sur lesquels il y a les petites maps en hexagone là, lui il te fournit donc c'est trois cartes que tu es censé poser côte à côte. D'accord. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pas coupé et du coup ça me fait un petit plateau individuel quoi,
tu d'accord, vois, okay.
qui est un peu plus large. Les deux wargames, bon ben il y a un petit plateau de jeu, ben il y en a un il fait même pas une page à quatre, donc tu fais juste un truc plastifié ou même tu fais imprimer sur un papier un peu épais, ça suffit. Le dernier dont je t'ai parlé, c'est que des cartes, bon il y en a un certain nombre mais c'est que des cartes. Et celui avec la tour, c'est deux feuilles à quatre. Une qui représente la zone de combat, avec la tour dessinée et tout. Et l'autre, où c'est plutôt des... comment on appelle ça ? Des tables. Tu sais, il faut aller se référencer sur les tables pour savoir. Voilà. Et puis après, des cartes, je l'ai dit, et des dés, quelques cubes. Ça se limite à ça, quoi.
D'accord, donc c'est vraiment une série de jeux que tous les auditeurs qui ont écouté...
peuvent se faire sans problème, ouais. Il y a un des wargames... le mécanisme est assez rigolo. Pour savoir à qui c'est le tour de jouer, tu prends un jeu de poker et en fait il y en a un qui a les noirs et l'autre les rouges. Tu mélanges le jeu et puis tu tires une carte.
D'accord.
Et du coup il peut y avoir un joueur qui va jouer 10 fois d'affilée et l'autre va jouer plus vers la fin, tu vois.
D'accord, ouais, je comprends.
Et en plus la valeur de la carte te donne la valeur de ton action.
D'accord. Ok.
Donc globalement sur le lot ça s'équilibre, mais c'est bon. Et du coup tu vois, tu pareil, il fait appel à un matériel que t'as déjà, quoi, un paquet de cartes, au lieu de te dire de le fabriquer.
Ouais, c'est intéressant.
Donc non, en termes de fabrication, c'est pas si énorme que ça. Après, ça fait beaucoup. Si tu veux faire la série, tous les jeux, ça fait un paquet de cartes, quoi.
Oui, mais en termes de complexité à faire, non, en gros, si chaque auditeur qui entend cette chronique peut se lancer dans
ah ouais, sans aucun problème, ouais. Sans aucun problème. D'accord. Et d'ailleurs, à mon avis, il faut aller voir sur le Printer Studio si ça vous intéresse, parce que Todd, il a mis sa boutique en ligne sur le Printer Studio, et je serais pas étonné que tous les jeux de la série, ils y soient sur sa boutique. Ça a l'air encore plus simple, mais bon, un peu plus cher, quoi.
Ouais.
Voilà.
Bah, merci beaucoup, ça m'a donné envie
d'essayer. Ouais,
ça te donne
encore plus envie. Bah, c'est le but, hein. C'est le but. Bon, eh bien écoute, on va tranquillement clôturer notre rubrique, à mon avis qui fera peut-être bien deux épisodes, parce que tu vois, on va être à 35 minutes d'enregistrement.
Ouais, je suis à 35 chez moi, 35-30.
Ouais, mais c'est très bien, hein, tant mieux. Écoute, dernier mot pour la fin.
Bah écoutez, merci encore pour votre invitation. Je vous dis, c'est sympa de partager les expériences. J'espère qu'on pourra t'inviter pour peut-être nous parler d'un ou deux jeux sous le buzz du Print and Play, un de ces quatre. Ouais. Faut qu'on organise ça.
Pourquoi pas, ouais. Après, ça te dirait rien de dire sous le buzz du print and play,
oui,
mais
vrai.
Ouais, bon, pourquoi
c'est
pas.
C'est vrai que le print and play par défaut est sous le buzz.
Ouais, c'est ça, ouais. Mais après, non, il y a des choses qui se voient. Je veux dire, Coinage, il a buzzé, voilà, hein, pas de problème.
Peut-être, mais, du coup, ce sera pas un sous le buzz, ce sera un print and play sur le buzz, quoi.
Sur le buzz, ouais, qui s'est vu, ouais. Bon, pourquoi pas, ça se réfléchit.
Faut qu'on réfléchisse à un nouveau format.
Ouais. Bon, c'est cool. Bon, écoute, tu connais notre conclusion, hein, tu vas faire avec moi.
Allez.
Bon, allez, alors maintenant que vous savez quoi faire de vos 10 doigts, jouez bien. Thunder off the trance dictates the rhythm of the fast, a number of takes, the rising of the horns. Hey, from the dawn of time to the end of days, I will have to run away. I want to feel the pain and the bitter taste of the blood on my lips again.
Alors donc, Régis, le do-it-yourself, tu demandais ce que
oui.
Pourquoi c'était faire. Alors, il y a multiples possibilités. Tu peux pimper ton jeu, c'est-à-dire tu peux lui donner une autre dimension, le personnaliser. Par exemple, Agricola, tu peux mettre des petits jetons pour les différents produits avec les chevaux, les vaches, tout ça. Tu peux aussi faire des boîtes de rangement. Tu peux refaire des cartes. Tu peux aller très très loin en fait sur le do it yourself. Et puis tu peux au final faire aussi du print and play. Et puis faire des jeux qui ne se trouvent que sur Board Game Geek en print and play. Tu l'imprimes, tu te fais des. Tu colles sur du lino. Et puis ça te fait des belles cartes. Tu peux jouer comme ça.
Du coup, ça fait penser à un éditeur de jeu, je crois
Chip
qu'il
As.
Est... Hein?
Chip As.
Non,
Chip
c'est As. EP, c'est Experimental Playground.
Oh, mais pas.
C'est, mais je crois qu'ils sont hongkongais, et où ils font justement du petit jeu de rôle, ou du petit jeu comme ça. C'est, je sais plus s'ils sont gratuits, mais en tout cas, j'ai trouvé vraiment sympa ce qu'ils faisaient, parce que tu retrouvais tout le charme de jeux comme Donjons & Dragons, dans une approche super simple et complète.
Expérimental Playground. On va aller voir et puis on mettra les références sur le site de Proxy Jeux.
Dites Olivier qui fera le billet.
Non mais... je peux plus compter sur toi, c'est ça?
Bravo. Si. Là, c'est-à-dire qu'il y a des parties comme ça là qu'il va falloir mettre en ligne pendant les vacances de Noël, ça va être un petit peu plus chaud.
On fera peut-être un break, on verra. Experimental Playground Games. Bon voilà, et on a la chance d'avoir d'être le seul podcast qui fait du. Qui parle de do-it-yourself. Le seul podcast francophone qui parle de do-it-yourself.
Ouais, et alors en parlant de ça, si vous êtes feignant comme moi.
Vous adressez
Alexis
à Alexis.
Va me lâcher. Ouais, mais Alexis, il avait proposé. Voilà, alors Alexis il propose de faire lui-même ses petits avec son ilovecraft.fr, de vous aider à faire vos réalisations, vos protos, etc. Mais il avait expliqué dans un épisode, il y a trois épisodes, comment faire ses petits cœurs en fimo pour Love Letter.
Oui, absolument. Sauf qu'il y a une version qui a des cœurs, enfin des cœurs.
Ouais, il y a une version, c'est la version allemande, je crois d'ailleurs, non? Et ils ont, et chez Philibert, ils ont réussi à rentrer des petits tokens comme ça en cœur, et ouais, et ça vaut 5€. Ouais, je pourrais pas te montrer, Olivier, je pense que mon
aïe. Non, c'est bon, c'est bon.
Mais voilà, il y a pour 5€, il y a les petits cœurs pour les feignants comme moi. Je pète le rêve du do it yourself.
Non, mais tu vas vraiment t'acheter ça?
Why not? Plutôt que des cubes en bois? Bah, et moi je les ferai jamais en fimo de toute façon, donc si j'attends que je les ai fait en fimo, j'en ai pour longtemps.
Et puis c'est un petit côté pratique qui peut servir sur plusieurs jeux différents.
Ouais, mais ça j'y crois pas. Donc je te parlais de Chipass qui le postulat de départ de Chipass c'était on a tous plein de dés, plein de jetons, plein de machins. Nous on va vous vendre uniquement que le jeu.
Je dirais même on a tous un illustrateur sous la main.
Ah oui,
on
c'est
vous
ça.
Vous faites tout direct du jeu, vous faites tout quoi.
Parce que ça n'y avait pas non plus. Et en fait, ça n'a pas super bien marché, mais bon.
C'était des jeux en noir et blanc quand même, c'était vrai, c'était vendu pas cher. Et tu prenais les pions, les dés, les machins, ils sont plus gros que succès, c'était Kill Dr. Lucky, mais le tout premier est tout en noir et blanc. Ouais. C'est vraiment pas beau. Après, l'idée c'était le Cluedo inversé, donc fallait tuer le Dr. Lucky. Mais on en a parlé souvent, hein, mais ça fait tout simplement les dés, les pions ne sont pas fournis dans la boîte. C'est à toi de les prendre dans une autre boîte et de les mettre quoi.
Ouais, donc du coup, c'est du do it yourself.
Ouais, j'avais un petit peu ces dimensions là.
Et alors, merci pour Experimental Playground parce que effectivement, ça cadre complètement avec la chronique. Il faut aller voir ce qu'ils font.
Ce que je vais faire, je vais glisser tout de suite le lien dans le conducteur en fait.
Bon, bah, troisième partie de notre numéro 61 qui touche à sa fin. On a
assez long, hein, d'habitude on enregistre 5 minutes, là on a quand même enregistré 30 minutes.
Ah oui, mais on avait plein de choses à dire. On a parlé de Shadowrun, on a parlé de Winter Tales. Je sais pas si ça va plaire à tout le monde. J'espère que ça vous donne
un bon. J'avais une news creux, jeu de rôle, putain, en plus, attends.
Et donc, on vous dit la semaine prochaine.
Non, j'ai une news. Ça rigole.
Et puis,
elle est morte après, sinon.
Et puis, en attendant.
Non. On a parlé des. Est-ce que t'as joué à Pathfinder, Régis?
Eh bon, mais Pathfinder, c'est un des jeux auxquels je rêve de jouer, mais manque de temps. Et puis, la gamme est extrêmement grande.
On parle du jeu de rôle.
Oui. Jeu de rôle, hein.
Jeu de rôle, pas de jeu de société. Oui, c'est
jeu de figurine, ouais.
Non, ouais, la partie jeu de rôle. Et en fait, Pathfinder,
c'est chez Black Book.
Ouais, chez Black Book. Et ben justement, et alors ce qui se passe, c'est que ils sont en train de brader jusqu'à la fin de l'année. Après, je pense qu'ils auront plus les droits. Tous leurs petits livrets. Tous les modules pour Pathfinder. Campagne. Donc, enfin, je dis brader, l'autre fois, ils les bradaient pas, ils étaient au prix normaux. Mais n'empêche qu'à la fin de l'année, ils les retirent.
Ah, je sais pas si achetez-les, ils sont bradés au prix normaux, donc il faut y aller.
Bah, ce qui me fait penser qu'ils vont être bradés à la fin.
C'est surtout que c'est français, et c'est en français qu'on les retrouvera plus. Ça veut dire que les Pathfinder, on les trouvera plus en français. Ou pas plus chez eux.
Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, je rappelle, Pathfinder, c'est une campagne en fait qu'on commence, et il y a 6 volumes, quoi. Et on commence avec des nouveaux personnages, et on est dans un univers particulier pour cette campagne-là. Et à la fin de la campagne, paf, au bout des 6 volumes, ce qui est déjà, pas mal d'heures de jeu, je pense. Hop, c'est la fin, et puis on repart avec une autre phase. Ils avaient l'idée de sortir ce cycle-là.
D'accord.
C'est ce qui fait le succès de Pathfinder, en fait, le jeu anglais à la base.
Parce que j'ai entendu parler au niveau du système de règles, parce que c'est du Donjon Dragon 3.5, mais ouais, revu, corrigé.
Exactement, et c'est ça. Mais moi, je connais pas, j'ai pas joué, je connais pas des 3.5, mais globalement, c'est un jeu qui a beaucoup marché, notamment parce qu'il proposait ses campagnes évolutives comme ça.
Voilà, d'accord.
Et Black Book, les a toutes traduites en français, enfin, toutes, non, mais on a traduit un certain nombre.
Oui, parce que.
Et là, ils ont dit qu'ils arrêtaient.
D'accord, donc alors du coup, qui va publier Pathfinder maintenant?
Bah, personne.
Eh ben, personne peut-être sera en PDF, c'était aussi dispo en PDF, on peut aussi acheter un PDF sur leur site, je sais pas ce qui va rester ou pas. Je vous mettrai parce que c'est au 31 décembre, alors de toute façon, sinon, c'était mort, si on va parler en prochain épisode.
Les torrents après?
Ou bah tu dois déjà pouvoir, mais bref, c'est pas le... c'est pas l'idée.
Non, non, mais achetez pendant que vous pouvez, puis après vous le récupérez sur toile.
Voilà, on peut conclure maintenant. J'ai pas la news.
Bon, donc on a fait du JDR après du 807 après du JDR. C'est un épisode un peu décousu, c'était le troisième pour notre numéro 61. La semaine prochaine, on vous reparle de jeux de société, puis on va vous parler un petit peu plus en détail, on va vous présenter les jeux qu'on aime bien en ce moment. Donc on vous dit à la semaine prochaine, joyeux Noël peut-être.
Peut-être.
Peut-être que ça tombe pas mal.
Peut-être bonne année, meilleurs vœux.
Voilà. Et en attendant, jouez bien.